I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 106 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on parle de UFC Fight Night Fiziev face à Gamrot. Combat évidemment super intéressant, quelques combats sympas sur cette carte. J'ai uniquement vu les combats de la main card et on va parler uniquement de la main card. Mais avant ça, félicitations à Michael Dufort, le nouveau champ lightweight de Cage Titan. Ça marche très bien pour le Canadian Badass qui est, comme je l'ai dit, il me semble, c'était pour la preview de UFC 289 où les amis du Café Crème Sport me demandaient quel fighter canadien était selon moi les meilleurs en ce moment. Eh bien, j'avais cité Michael Dufort et Michael Dufort est en feu en 2022. Et en 2023, 2022, des victoires chez UAE Warriors, des victoires pour les PFL Challenger Series, victoire contre un ancien du UFC, Luis Peña, chez Aries dans le Tennessee en 2023, et victoire chez Cage Titan face à un ancien du TUF, un ancien du UFC, et le double champion de Cage Titan, Joe Gianetti, victoire encore une fois en 90 secondes. Je vous le dis, ce gars-là est très, très, très solide. Clairement, il y a une grosse écurie qui doit être sur lui parce que là, ça fait énormément de preuves de la part du lightweight. Je pense qu'on devrait l'attendre sous peu dans une plus grosse organisation. Bravo, Michael Dufort. On repasse au UFC Fight Night. Et quel week-end pour le MMA canadien puisque Charles Jourdain a gagné son combat face à Ricardo Ramos. C'était à moitié, hein, voilà, ça craint un peu, mais à moitié annoncé sur la chaîne YouTube du Guillotine Podcast pour l'interview du pirate québécois Charles Jourdain, qu'il allait se battre le 23 septembre face à un Brésilien, c'était Ricardo Ramos. Et ben combat gagné de la part de Charles Jourdain, déjà dans le premier round, sans damage. Ce qui lui donne la possibilité de se rebattre dans pas trop longtemps au final, et puis sans dommage, c'est toujours mieux. Ça a été quand même chaud dans le sens où c'est Ricardo Ramos qui a été un peu plus entreprenant ou agressif, on va dire, je trouve, dans ce premier round ou dans le début du premier round, puisque la majorité du combat s'est passé au sol. Quelques échanges de kicks, Ramos a passé quelques body kicks et essayé de pousser contre la grille. Jourdain a bien circulé, mais par la suite, c'est Ricardo Ramos est allé chercher un single leg qu'il a vraiment bien passé. Jourdain a essayé de protéger avec une guillotine, mais s'est retrouvé avec la guillotine du mauvais côté, puisque Ricardo Ramos a fait ce qu'il fallait pour se défendre de cette guillotine. Et du coup, il a essayé de passer un vent de fluke, choke, de l'autre côté, enfin sur la tête d'appui de Jourdain avec son épaule. Et Jourdain, par contre, s'est vraiment bien défendu. Je l'ai trouvé très à l'aise sur le dos. Bon, c'est pas une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien pour rien. Et l'importance de s'être entraîné très très fort face à Kron Gracie. Il nous avait dit que son fight camp était vraiment exténuant, hein, qu'il avait fait énormément de grappling et énormément de sol et qu'il a passé son temps à défendre son dos, etc. Et le fait justement d'insister sur le jiu-jitsu là-dedans, ça lui donne aussi des moments de lucidité comme il a eu contre Ramos où il a vraiment pas paniqué, il a bien fait ses frames, il a réussi à rentrer ses coudes pour pousser les hanches de son adversaire. Et Ramos n'a jamais vraiment réussi à aller chercher la soumission qu'il allait chercher. C'est de la très bonne défense de Jourdain. On se relève brièvement et là, Charles a confiance en son jiu-jitsu. Encore une fois, comme je vous le dis, il a travaillé énormément cet aspect pour le fight camp face à Kron Gracie. Il était bon avant, il est encore meilleur. Et il l'a prouvé ce soir, il a sauté sur cette guillotine et là, il avait le bon angle. Il a réussi à passer sa garde pour pouvoir bien appuyer sa guillotine. On croyait que Ricardo Ramos allait pouvoir popper sa tête, ça y ressemblait, mais je pense que le squeeze de Jourdain a dû faire taper Ricardo Ramos, tout simplement. Et victoire au premier round, et 50 000 de bonus en plus pour le pirate Charles Jourdain. R. Jourdain, voilà, 27 ans uniquement, faut pas l'oublier, 27 ans, c'est jeune, et il a déjà beaucoup de combats au UFC. Certes, son record est un peu à la Rocky, mais c'est pas un problème. C'est un gars qui vend bien. Les gens l'aiment, aiment le voir se battre Jourdain dans la cage. Il est cool pendant les Fight Week. Il fait un bon taf au niveau du UFC, tout simplement. Je veux dire, Il est entertaining et les gens sont pas blasés de voir se battre Charles Jourdain alors qu'il se bat régulièrement. Donc ça aussi, c'est un très bon signe. Et puis, regarde, il fait sa vie tranquillement de fighter, il avance, il a eu des défaites, il s'est corrigé sur certains points. Et puis, comme je vous dis, je pense qu'il commence à prendre vraiment confiance en son jiu-jitsu. Et même si c'est plus un striker, ça le rend plus complet. Et c'est une très bonne chose pour la suite de la carrière de R. Jourdain. Bravo à lui, victoire au premier round. Et le deuxième combat qui, malgré le fait que ce soit pas non plus le combattant le plus hypé ou alors le plus intéressant aux yeux de beaucoup de gens, Brian Battle, l'homme qui a gagné le TUF il y a 2 ans, même si on s'en fout un peu du TUF, ça reste quand même une victoire. Et c'est quelqu'un qui est passé en welter. Ça, j'ai pas vu venir et je vous avoue que il était vraiment grand par rapport à son adversaire. Il avait tellement plus d'allonge. Fletcher, son adversaire, est celui qui a le plus petit reach de la division middleweight. Il se retrouve face à un ancien middleweight qui a vraiment, vraiment plus d'allonge, qui est plus grand. Donc ça va être très compliqué. Battle utilise bien ses front kicks. Hein. Il les utilisera un peu comme un jab tout du long du combat. Mais Fletcher avance et rentre avec des low kicks, pardon, assez piquants. 3 minutes sans punch de la part de Brian Battle. Ça, par contre, j'ai pas. Bon, après, peut-être il essayait de lire un peu son adversaire. Je l'ai trouvé, par contre, sur le premier round, en global, pas assez actif. Mais, comme je vous dis, 3 minutes sans punch. Et après, il a commencé à varier un petit peu plus. On a une belle bataille, toujours avec des front kicks de la part de Brian Battle. Quelques body kicks et Fletcher a eu quelques succès avec les mains en rentrant brièvement et en ressortant rapidement aussi. Battle a poussé un petit peu plus à la fin, comme je vous le dis, en variant un peu plus. Et Fletcher est obligé du coup de pousser à la lutte contre la grille. Voilà, on doit se déplacer de cette grille, mais Fletcher garde le clinch, envoie un gros coude. Et là, Fletcher finit fort et on doute un peu de la capacité de Brian Battle à aller de l'avant dans ce combat-là parce qu'il n'a pas été assez actif et il a pris notamment ce coude qu'il l'a droppé très brièvement, mais bon, il s'est fait dropper quand même avec un coude. Du coup, dans le round 2, ce que j'ai apprécié comme réponse, c'est qu'il y a eu plus de volume directement de la part de Brian Battle. Fletcher a dû le couper avec la lutte, mais Fletcher se fait renverser contre la grille. Alors là aussi, très très beau revirement de situation de la part de l'ancien middleweight, qui au final le gardera très fort contre la grille en mettant beaucoup de pression sur le haut des cordes de son adversaire et en passant beaucoup de genoux au corps. Fletcher en a pris vraiment énormément, il reste actif, ça j'ai beaucoup apprécié. Brian Battle passe un single leg et smash aplati Fletcher qui finira par donner le dos et en essayant de faire de la tortue pour s'échapper. Brian Battle passera un rear naked choke et finira le combat. Et ce que je retiens de Brian Battle, c'est que quand il accélère, ben ça marche. Et il est capable de finir, il est capable d'avoir ce fameux goût du sang pour son adversaire. Combat pas non plus le plus important au final quand on regarde le classement, le fait qu'il passe en welter, mais quand même pas mal pour le deuxième round de la part de Brian Battle. J'ai vu que Michel Watterson s'est fait déboîter dans le deuxième round. C'était vraiment trop. J'ai passé le combat vite fait. Mais ça a été vraiment une punition, je pense. J'ai pas vu comment ça s'est. Les scorecards des juges. Mais j'aurais bien voulu le voir s'il y avait eu un 18 ou un 17, quoi. Parce que dans le deuxième, ça a été une catastrophe pour Watterson qui a perdu du sang. Qui a perdu du cardio, qui a perdu un peu de son âme aussi, je pense, dans ce round, et elle ne la récupérera jamais. Hein. La violence de la punition était bien trop forte. Dur pour elle, dur pour elle. Désolé, je le passe vite comme ça, mais j'ai pas vu le combat, et c'est peut-être pas celui qui m'intéressait le plus, pour être honnête. Celui qui m'intéressait, c'était le retour de Mitchell. Sacré Mitchell. Face à Dan Higuff. Je peste à l'avance parce que je ne peux pas me retirer cette photo qui tourne sur les réseaux de lui en train de lever la Bible au ciel. On va en reparler un petit peu. Mais on va parler du sportif parce que moi j'ai trouvé on l'a retrouvé quand même, Mitchell, dans le grappling. Ça a été vraiment appréciable. Il y a eu des moments de fluidité quand il était au-dessus de Danny Gueux qui était vraiment de la fucking porn pour les amateurs de Jiu-Jitsu et de grappling. C'était magnifique. Premier round, Danny Gueve rentrait dans la poche. C'est le premier single leg de Mitchell après 90 secondes. Hein. On sait que Gueve peut être rapide et avoir une bonne petite boxe quand il peut être dans la poche. Et puis Mitchell, c'est pas forcément sa première force. Donc du coup, premier single leg après 90 secondes. Ige défend très très bien par contre en poussant la tête. C'est Mitchell d'ailleurs qui va prendre le premier damage avec le côté de sa droite de sa face pardon, en sang. Mitchell pousse un bodylock contre la grille et met Ige au sol très brièvement, mais ça vous donne le ton sur le combat. Mitchell qui va pousser pour la lutte, pour le bodylock, aller pousser contre la grille, aller chercher, essayer de locker ses mains d'une façon ou d'une autre avec un double leg ou avec un bodylock et aller utiliser ses pieds pour faire des trips et amener Ige au sol, c'était magnifique. Mitchell se prend une main arrière en avançant dans le premier round, ça s'est arrivé aussi à plusieurs reprises. Il reste le bodylock contre la grille et superbe takedown avec un trip. Et comme je vous dis, ce sera un petit peu le fil rouge de ce combat-là. Deuxième round, Mitchell commence un peu à feinter ses shoots. Par contre, quand Ige avance avec des combis 1-2-3, il touche Mitchell et là, je pense que ça lui fait mal à un œil. Ça a fait très très mal. Hein. C'était assez impressionnant la vitesse. Et puis quand il change les niveaux, Ige, c'est vraiment pas mal. Mitchell est obligé de passer un double leg direct. Ça a été denied. Son œil a pris cher. Pause de l'arbitre. On repart et c'est Danny Gueux qui, contre toute attente, passe un takedown sur Mitchell. C'était très très fou. Bryce Mitchell est très à l'aise par contre sur son dos, donc il n'a aucun problème à se relever. Comme je vous le dis, la fluidité du jiu-jitsu et du grappling de son aisance à Bryce Mitchell est vraiment vraiment nice. Le single leg suivant échoue, mais c'est pas grave. C'est juste une game de toujours essayer parce que ça va finir par passer. Par contre, il s'est fait connecter encore une fois pendant qu'il shoot, mais quand même réussit à passer le takedown et il passe en full mount. Comme en premier round, on se retrouve un peu avec une grosse fin de Mitchell, sauf que Mitchell a commencé plus tôt. J'adore vraiment les mouvements au-dessus, hein. C'est incroyablement fluide quand il passe du full mount au side control pour aller chercher le dos au-dessus de la tortue. C'est magnifique. Il est à l'entraînement au-dessus d'un gars pour rouler tranquille. Il est vraiment, on le savait, hein, sur toute la, il a peut-être le meilleur grappling de la division et il l'utilise très bien. Ige défend fort sur les mains pour le rear naked choke, hein, ça il n'a pas le choix, c'est vraiment de la survie, mais il le fait très bien. Il arrivera à se retourner, il survit encore au-dessous, gros round pour Mitchell. Troisième round, on repart un peu, je vous le dis, sur les mêmes bases. Body kick, Mitchell pousse contre la grille. Ige est déjà en galère. Mitchell prend beaucoup de confiance dans son grappling. Encore une fois, hein, beaucoup de fluidité dans tous les angles. Hein. Même quand il est sur le côté, il arrive il est en mauvaise passe, mais il arrive à prendre le dos de Mitchell. Il lui reste plus de 3 minutes à gérer. Il passe en full mount, mais Ige se relève. Et il pousse Mitchell contre la grille, lutte avec beaucoup de pression, le corner de Ige hurle, mais Mitchell passe un énorme takedown. Ige le renverse par contre, il n'a pas réussi. Ça c'est peut-être le point noir, je dirais, du combat de Bryce Mitchell, c'est que il n'a pas réussi à garder la position dans la dernière minute du troisième round. Alors ça peut paraître être du gros détail, mais pour quelqu'un qui, je trouve, avait vraiment de belles cartes à jouer au niveau du top 10, top 5, voire aller chercher un shot pour la ceinture. Hein. Après, il s'est fait défoncer par Topuria. Il n'y a aucune honte à se faire défoncer par Topuria parce que le mec est un tank. Mais je suis devenu demandant, mine de rien, avec Bryce Mitchell parce que c'est pas juste une défaite qui va changer tout le talent qu'il a, mais aussi parce que je l'ai vu rouler sur Ige dans le domaine du grappling et puis je pense qu'il aurait dû, genre, finir avec la position, au moins. Et il ne l'a pas fait, donc c'est le tout petit hic, je dirais, de la performance de Mitchell. Il n'a pas de problème à survivre, hein, aucun problème dans la fin du round 30 de Ige, mais Ige, au moins, a eu le mérite de pousser pour avoir ce moment. C'est donc une très bonne performance de Bryce Mitchell dans la cage, mais dans la cage, hein, avec une petite astérix, une très grosse astérix, parce que ça s'est bien passé jusqu'à ce qu'on lui donne le micro, quoi. C'était vraiment too much. Mais au moins, ça nous donne beaucoup de moments assez qui vont être virés au comique. Mais là, c'est vraiment demandé pour, quoi. Parce que dans le rôle du témoin de Jéhovah le dimanche matin qui sonne à votre porte, vous savez, ben le malheureux qui a répondu, c'était Danny Gueux. Et puis il l'a pas lâché, hein. Bryce Mitchell, quoi. C'était long. C'était long et pénible et awkward et cringe et tout. Et tout, et tout, et tout. Ça sert à rien d'en parler pendant 10 ans, parce que là, faut, là j'ai coupé. J'ai coupé. Plus de son, plus de lumière pour moi, là, après les efforts sportifs de Bryce Mitchell et sa galère d'arbres à fruits, hein, qui ont été cruellement détruits par son ex-copine. L'épisode de la Bible pour suivre derrière, fin de la Bible, prière, tout, quoi. Le kit complet, le mec, quoi. Le kit complet. Le bingo de Bryce Mitchell avec la terre plate, avec les arbres à fruits, avec la prière avec Bryce Mitchell. Enfin voilà, on a du bon. On a du bon avec Bryce Mitchell qui nous attend pour la suite sur les réseaux. Bravo à lui, hein. En tout cas pour ce retour très gagnant. Il ne manquait plus qu'un finish. Ou alors, comme je vous le dis, moi, cette dernière petite minute où il n'a pas gardé la position. Bravo à Bryce Mitchell et cool pour Danny Gueux d'avoir fighté jusqu'au bout. Comme disent les anglophones, that's the spirit. Et on peut passer au main event, le retour de Mateusz Gamrot et de Fiziev, hein, qui avait perdu son combat contre Gaethje. Et Gamrot qui a toujours sa petite cote, hein, auprès de votre serviteur Guillotine Podcast, parce que moi, genre, je l'aimais bien, mais depuis son combat contre Tsarukyan, c'est impossible pour moi de revenir en arrière sur Gamrot. Parce que il vend du rêve dans son grappling, dans ses roulades, dans son explosivité, enfin voilà, dans beaucoup de choses. Et Fiziev est cool aussi parce que lui, il était pas mal en Muay Thai. Bon, il a surtout beaucoup développé sa game en Muay Thai. Il s'est un peu combattu là-dedans. Il s'est battu en Thaïlande. Et puis c'est cool de le voir se battre de par son striking, comme je vous dis. Mais on n'a pas eu le combat qu'on devait avoir parce qu'il y a eu cet incident. Il y a eu cet incident. Alors, il y a quand même eu des choses qui se sont passées, hein, dans le premier round. Gamrot, je l'ai trouvé prudent, hein, face au striking de Fiziev. Il rentre avec des jabs et des low kicks et il sort vite sur le côté. Et dès qu'il traîne dans la poche, ben, il se fait punir. Ou alors, il voit qu'il peut être en danger. Fiziev avait préparé une belle combi. Il a attendu un petit peu qu'il approche et qu'il squatte dans sa zone. Et quand il a squatté dans sa zone, belle combi en 1, 2, 3 avec les mains, avec différents niveaux en plus, hein, bas et haut. Donc, vraiment pas mal ça de Fiziev. Première tentative de single leg avait été avortée par Raphaël Fiziev de la part de Gamrot. Et l'apex est en feu. Les quatre personnes qui sont sur place crient. Gamrot parvient à passer une main arrière. Hein, mine de rien, Gamrot a réussi à connecter une fois ou deux. Ça circule beaucoup au milieu de la cage. J'ai l'impression qu'on se jauge un petit peu entre les deux combattants. Fiziev passe un bolo kick qui déstabilise Gamrot. Vraiment, on partait sur du 5 rounds. Et Fiziev sait très bien que Gamrot est capable de dérouler sur 5 rounds. Je pense qu'ils ont été prudents des deux côtés. Ils sont un peu regardés, qu'ils ont besoin d'absorber un peu des informations. Et Fiziev ne voulait pas forcément non plus aller chercher, trop s'approcher de Gamrot, pardon, et puis faire attention aux défenses de takedown aussi, quoi. Donc, ça s'annihilait un petit peu entre les deux fighters, mais il y avait quand même un petit peu de mouvement. Dans le deuxième, Gamrot fonce pour un single leg, Fiziev défend, mais Gamrot insiste et passe un takedown au milieu de la cage. On se retrouve debout contre la grille. Gamrot travaille très fort, hein, comme à son habitude. Il adore travailler avec ce body lock. Le nombre de fois il va vouloir aller vous le chercher pour pouvoir aller passer, se mettre un peu derrière vous, mettre de la force sur les hanches et aller passer un crochet pour essayer de faire triper votre adversaire. Ça, il adore faire ça et moi j'adore le regarder. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que Fiziev était pas mal bon à se défendre contre la grille et faisait travailler énormément Gamrot qui devait, ben, comme à son habitude et comme dans son style, pousser et pousser et pousser. Mais il défendait bien et du coup j'étais curieux de savoir ce qui allait passer par la suite parce que Gamrot allait devoir pousser encore plus et devoir faire plus d'efforts pour aller chercher ses takedowns. Et puis malheureusement, ben, sur un kick, Fiziev se blesse au niveau, je sais pas si c'est du pied, du genou là, ou même du tibia. Mais je pense que c'était du genou qui se plaignait, mais on voit aussi que son pied tape dans le coude un peu de Gamrot. Vraiment freak accident vers la fin du deuxième round, pardon, on a que deux rounds, et j'ai l'impression qu'on aurait pu partir sur 3, 4, voire 5. Hein. Ça continuait bien dans ce sens-là, et ça fait vraiment chier. Ça fait vraiment chier parce qu'on n'a pas, encore une fois, appris vraiment plus sur Gamrot. Moi, ce que j'ai vu, c'est que Fiziev était capable de se défendre contre Gamrot un peu sur le grappling ou du moins de survivre. Et c'était impossible pour moi de parier sur la suite hein, de ce combat. Et puis évidemment ce qui est arrivé, imprévisible. Et vraiment, vraiment c'est dommage parce qu'on voulait plus. On voulait plus et j'ai pas grand chose à dire à part merde. Voilà. Puis Gamrot au final, bah, ça lui fait une victoire, hein, puis ça le replace comme à son habitude, bien à son aise sur le petit divan ou le gros divan du top 5 des lightweight. Hein, je pense que voilà, il va peut-être passer 6 ou 5 maintenant, ou je sais plus où il est. Mais en tout cas, il prouve peut-être pas forcément par une performance sportive extraordinaire, là, mais bon, il s'est quand même battu et puis il a quand même poussé comme Gamrot, Mateus. Donc je veux rien lui enlever non plus, et puis il va devoir la prendre cette victoire, et puis continuer comme s'il avait gagné. Il n'y a absolument rien d'autre à faire pour Fiziev, c'est dur, on attend de savoir ce qui se passera au niveau de sa blessure. J'espère que ça ne le portera pas trop longtemps loin des mats et de la cage. Et voilà, petite main card quand même assez sympa, et puis vive le Canada pour ce week-end vraiment gagnant, vraiment parfait pour ce week-end. Merci à vous, et comme d'habitude, j'insiste un petit peu pour vous demander d'aller vous inscrire, de me suivre, pardon, sur Instagram, voilà. Parce que je vais rajouter un peu de contenu, et en ce moment, ben, figurez-vous que j'en rajoute pour du vrai. Voilà, hein, et suivez-moi sur Twitter aussi, si ça vous intéresse, @guillotine514 sur Twitter, @guillotine_podcast sur Instagram. Merci à vous, ciao. At the end of the day, it is what it is.